Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, salut et merci d'être avec nous. J'espère qu'il ne fait pas trop chaud. En tout cas, je peux vous dire que les signaux climatiques, ce n'est pas une théorie, c'est quelque chose que l'on vit au quotidien. Beaucoup de chaleur en ce moment. Est-ce que ça va prévaloir finalement d'un été très chaud? En tout cas, prenez soin de vous. D'ici là, c'est le numéro de juin pour le sens de l'immobilier. C'est la 7e édition, on est ravis d'être avec vous. Vous avez compris, on vous l'avait promis. On va parler maintenant de la restitution, si on peut parler de restitution, après le Conseil national de refondation sur le volet logement, puisqu'il faut rappeler que le CNR n'était pas lié qu'au logement, sur un ensemble de sujets, dont le logement. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, elle se fait rare parfois sur notre plateau, mais on est ravis de la voir, je crois que c'est la seconde fois que je l'interview ici dans nos studios, c'est Catherine Sabat. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Catherine, déléguée générale d'Idéal. Idéal, qui est un think tank, une association qui va... Parlez-nous un petit peu d'Idéal.
Idéal, donc l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement, donc un think tank qui fait à la fois de la recherche et de la formation et dont l'objet d'étude principale est l'habitat et le logement. Donc notre slogan, c'est remettre le logement à sa place, c'est-à-dire au centre des préoccupations des ménages, évidemment, au centre des préoccupations des acteurs économiques et au centre... on aimerait bien, des préoccupations des acteurs politiques.
Alors vous connaissez très bien le sujet, puisque vous avez œuvré pendant 11 années comme journaliste aux Échos, et vous étiez co-animatrice avec Mickaël Nogal, ancien député de Haute-Garonne, pour une thématique qui s'appelle donc « Réconcilier la France avec l'acte de bâtir du logement nouveau ».
En fait, le titre original était « Réconcilier la France avec l'acte de bâtir », ce qui était quand même... très très ambitieux, oui. Comme intitulé, très large, et nous on l'a rebaptisé « Réconcilier la France avec l'acte de produire des logements nouveaux », sous-entendant que produire de l'habitat, c'était pas forcément construire des logements neufs, mais c'était aussi réinvestir toute une partie du parc existant, soit des logements, soit des bâtiments qui peuvent être transformés en logements et qui ne le sont pas à l'origine.
Un enjeu majeur, bien évidemment, et on va en parler parce qu'inévitablement, on va parler de la restitution du CNR avec les mesures qui ont été annoncées par la Première Ministre. Sur le plateau, quelqu'un qu'on connaît bien, on aime d'ailleurs son franc-parler sur le sujet logement dont il maîtrise tous les contours. Il est vice-président de la région Île-de-France, président du Grand Paris Aménagement ainsi que le l'établissement public d'Île-de-France, le PF Île-de-France. Il est maire de Mennecy également, c'est un élu local. C'est Jean-Philippe Dugoin-Clément. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et notre producteur-animateur, Fabrice Coustet. Comment ça va Fabrice?
Bonjour Sylvain, bonjour à tous.
Et nous attendons d'une minute à l'autre, elle n'est pas encore sur le plateau, mais elle ne saurait tarder. D'ailleurs, on va faire un peu le jeu des chaises musicales, puisque je sais, Jean-Philippe, que vous avez une contrainte tout à l'heure. Nous allons attendre d'une minute à l'autre Marjolaine Meignier-Millefer, députée de l'Isère et présidente de l'Alliance HQE. Mais dans un premier temps, l'édito, c'est à vous Fabrice.
Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis.
Comme anticipé, le Conseil national de la refondation, le CNR, vient d'accoucher d'une souris. Si le gouvernement se félicite du travail accompli par le large groupe de participants, aux trois groupes de travail, plus de 200 experts impliqués, et fait quelques annonces techniques, les réactions des professionnels de la construction et de l'immobilier sont plutôt mesurées, voire négatives. Alors, trois groupes de travail, on en a parlé, redonner du pouvoir d'habiter, réconcilier la France avec la production de logements nouveaux. Notre invitée Catherine Sabat en faisait partie. Et puis, faire du logement l'avant-garde de la transition écologique. Voilà un programme ambitieux. Les professionnels de tous horizons ont donné leurs idées, présenter des mesures qu'ils jugent nécessaires pour relancer la construction, soutenir la rénovation. Mais voilà, le gouvernement, parmi les dizaines de propositions qui ont été formulées et synthétisées en 19 points, n'en a reçu, ne sélectionné que quelques-unes. Et ça a fait beaucoup de déçus, bien évidemment, chez les professionnels, comme dans le monde politique. Ainsi, la Commission des affaires économiques du Sénat fait part de ses sentiments dans un communiqué intitulé « Logement, déception et désillusion au lieu de refondation ». Les sénateurs voient dans les solutions adoptées des mesures techniques, partielles et de court terme. Alors, notons-les, quelles sont-elles? Alors, outre la mensualisation d'un taux d'usure actualisé par la Banque de France, afin de ne plus bloquer les dossiers de prêt, on s'en souvient, la situation était assez bloquée en début d'année, oui. La principale réponse à l'accès au logement pour tous, c'est celle du prolongement du PTZ, le fameux prêt à taux zéro, jusqu'en 2027, une mesure qui mobilisera 600 millions d'euros par an. Pour le prix élevé des logements, Elisabeth Borne dégaine une autre mesure, le bail réel solidaire pour les ménages modestes et le développement du logement intermédiaire à prix plafonné pour les classes moyennes au moyen de prêts accordés par la Caisse des dépôts, ceci à hauteur de 1 milliard d'euros. Enfin, sur l'épineuse question du foncier, on avait parlé de zonage lors de la dernière émission qui va se faire de plus en plus rare avec l'obligation du ZAN, zéro artificialisation nette, la Première ministre dit miser sur la transformation de friches dans les zones tendues et sur des programmes de renouvellement urbain pour faire sortir de terre de nouveaux quartiers mixtes et abordables. Le gouvernement qui annonce travailler sur le droit de préemption des collectivités et sur l'évolution des règles des domaines. Bref, on est loin des grandes promesses ou du choc d'offre qui aurait permis aux Français de retrouver du pouvoir d'habiter. Au-delà de ce scénario logement, rendez-vous plutôt manqué donc, le débat reste entier. Comment faire du logement l'avant-garde de la transition écologique? Comment faire face à l'effondrement de la demande solvable? Comment enfin réconcilier la France avec la production de logements nouveaux? C'est autant de questions que nous allons poser maintenant à nos experts.
Merci Fabrice. On peut pas franchement dire que ce soit l'embellie pour l'industrie immobilière comme tous les acteurs du logement. Et nous accueillons sur le plateau, elle vient d'arriver, Marjolaine Millier-Millefer. Voilà, installez-vous sur le plateau. Merci et vous êtes la bienvenue. Tout d'abord, je vais commencer par vous, si vous voulez bien, Jean-Philippe Dugoin-Clément. Est-ce que je peux me permettre de parler du livre qui sort le 23 dans les bacs que vous avez publié, L'habitat fait le citoyen? Voilà, on l'a en avant-première, ce sera disponible à partir du 23 juin. C'est un excellent préambule, à la fois à le contexte un peu particulier, voire singulier, suite aux annonces d'Elisabeth Borne. Et en plus, total respect, puisque vous avez une préface dans Jean-Louis Borloo, qui a été certainement l'un des meilleurs ministres de la ville que nous ayons connu sous la Ve République. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ces mesures? On sait, vous l'avez écrit. La montagne a accouché d'une souris, je crois quand même que ce sont vos mots que vous avez employés. Et il me semble également que vous étiez, on ne va pas dire énervé, mais assez dubitatif sur le sort de cette restitution. C'est à vous la parole.
En tout cas, l'exercice qui a été fait est extrêmement déceptif. On peut se poser la question d'ailleurs de l'intérêt politique de faire travailler des dizaines de personnes pendant 7 mois pour sortir avec quelques mesures techniques. Alors le gouvernement est bon communicant, d'ailleurs vous le disiez, on dit on proroge le PTZ. Non, la réalité, si on devait avoir un regard dur, on supprime le Pinel, on restreint le PTZ, parce que l'assiette du PTZ est restreinte, le logement individuel n'est plus autorisé, c'est-à-dire qu'on est en train de signer l'arrêt de mort des producteurs de pavillons dans ce pays, et en tout cas des primo-accédants n'auront plus le droit à accéder au PTZ sur de l'habitat individuel, donc on est sur une sectorisation, une segmentation très forte, et on réduit les dépenses de 2 milliards, c'est-à-dire que le CNR logement est une victoire de Bercy. D'ailleurs, c'est pas un hasard si le ministre du budget, il y a 3 jours sur BFM, faisait son exégèse de ce qui devait être fait pour le logement ou pas. On se rend compte qu'on est dans un pays, vous savez, c'est comme le football, on vous disait pendant des années, vous jouez au football pendant 90 minutes, à la fin c'est les Allemands qui gagnent. Quand on parle du logement, vous avez un ministre du logement qui essaye pendant 7 mois de travailler, à la fin c'est Bercy qui gagne.
Quand vous dites, j'ai repris ce que vous aviez communiqué notamment sur les réseaux sociaux, vous avez été très présent, vous allez quand même assez loin, puisque vous dites carrément que c'est un rendez-vous manqué et que finalement si on voulait fabriquer une crise sociale du logement, ou je ne veux pas, alors c'est pas le terme n'est pas de vous, mais une forme de gilet jaunisation du logement ou de la bombe sociale prête à exploser, on ne s'y prendrait pas mieux. Au-delà du constat politique, parce que le politique que vous êtes, qu'aurait-il fallu faire? Qu'est-ce que vous auriez souhaité voir annoncer suite aux travaux du CNR?
Si vous voulez, le CNR fait toute une série de propositions qui généralement sont assez partagées. Après, en fonction des sensibilités des uns ou des autres, on peut avoir des divergences sur telle ou telle nature d'orientation, tel ou tel type de position. La réalité, c'est qu'on n'a pas de solution forte, de solutions immédiates qui sont apportées par le CNR pour faire face à une crise de l'offre, à une crise de la demande, à un rétrécissement du foncier disponible et à une inacceptabilité, une impossibilité d'accéder pour des classes populaires ou moyennes au logement. La réalité du logement dans ce pays, c'est qu'en 30 ans, le coût du logement n'a cessé d'augmenter dans la part du budget contraint des ménages et n'a cessé d'augmenter de manière beaucoup plus forte pour les classes populaires et moyennes que pour les classes aisées. C'est une réalité. Depuis 3 ans, on assiste à un effondrement des permis de construire, on assiste à un effondrement des agréments qui sont délivrés et au fond, le pire de la crise du logement, il est devant nous. Parce que c'est tout ce qui n'a pas été délivré, tout ce qui n'a pas été fait sur les 3 dernières années, qui ne sera pas livré dans les années qui viennent. Aujourd'hui, on est plutôt sur des années 17, 18, 19 de permis de construire, qui ont plutôt été des années élevées. Donc on est plutôt sur un marché qui se détend. les questions des bailleurs sociaux qui sont exsangues aujourd'hui, les questions des communes qui n'ont plus aucun intérêt financier à construire, et on ose leur dire qu'on va leur taper sur les doigts s'ils continuent à ne pas donner de permis de construire. On leur a supprimé la taxe d'habitation, on a réduit les dotations de fonctionnement de l'État, pas sur ce gouvernement, mais ça a été totalement réduit. Ma commune, en 10 ans, j'ai augmenté de 15% ma population, j'ai divisé par 3 mes dotations de l'État. La réalité, c'est celle-là. Je suis passé de 2 millions à 650 000 euros en passant de 13 à 16 000 habitants. Donc je prends cet exemple concret, il est vérifiable. C'est-à-dire qu'en l'espace de 10 ans, c'est un groupe scolaire que vous ne construisez pas, on n'est pas venu dessus. La question de la maîtrise du prix du foncier, on ne vient pas dessus. Moi, je pense que fondamentalement, si dans les zones tendues, on ne met pas des mécanismes pour maîtriser l'envolée du prix du foncier, on ne tiendra pas dessus. La question du démembrement de propriété, on vient un peu dessus avec le BRS, mais le BRS n'est pas l'alpha et l'oméga. Le BRS, ça va fonctionner dans des zones très tendues. On est sur quelque chose qui peut profiter à un certain nombre de personnes, mais qui ne solutionnera pas à lui seul la question du logement. La question de l'emprunt. Aujourd'hui, on est sur des emprunts immobiliers qui ne portent que sur la personne et qui ne portent pas sur le bien. On pourrait imaginer, ça se fait en Suisse, ça se fait dans les pays scandinaves, d'avoir des emprunts de longue durée qui portent sur le bien et qui soient revendus avec le bien. En Suisse, ça pose pas de difficulté. Ça permet de resolvabiliser et de donner une accession au ménage. La réalité, c'est que tous ces sujets-là n'ont pas été évoqués. Et ce qui me stupéfait, c'est qu'après 7 mois de concertation, et encore une fois, on peut diverger sur les orientations, mais on a le milieu associatif qui n'est pas satisfait, le milieu du logement social qui n'est pas satisfait, le milieu de la promotion privée qui n'est pas satisfait, les partis politiques qui ne sont pas satisfaits, et les maires qui ne sont pas satisfaits. Ça fait beaucoup.
Une chose est sûre, c'est qu'effectivement, ça fait l'unanimité. D'ailleurs, vous dites une chose dans votre bouquin sur la quatrième de couve. On vit une crise sociale profonde où les plus fragiles risquent de ne plus pouvoir se loger. Et en même temps, on fait face à une urgence écologique. Est-ce que vous dites, en fait, les opposer systématiquement est absurde, puisque vous dites irresponsable et stérile, alors que nous avons tout à l'heure fait le pouvoir et le devoir d'améliorer le quotidien des Français. Si nous ne voulons pas vivre une crise assise sur une bombe sociale à retardement, chacun doit avoir accès à un logement lui permettant de se construire une belle vie, car au fond, le logement, c'est ce qui fait le citoyen. On ne peut que souscrire à cela, Catherine Samar.
Ah oui, absolument. Moi, je dis que le logement, ça devrait être la mère de toutes les politiques publiques. C'est-à-dire que quand on n'a pas de logement, on n'a rien, et puis on n'est rien non plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas statut social, on ne peut pas élever ses enfants.
Pour vous, c'est un marqueur social, le logement ?
On ne peut pas se reposer. Oui, c'est un marqueur social. Après, dans la mesure où on est locataire du logement social, locataire du marché libre, propriétaire, etc. etc. Mais avant d'être un marqueur social, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, avoir un logement, avoir un toit au-dessus de sa tête, c'est juste pouvoir vivre. Voilà. Donc, effectivement, je souscris à ce qui a été dit. Après, sur la souris, alors, vous avez absolument raison, sauf qu'il y a un petit bout que vous avez oublié, c'est les quelques 50 000 logements qui vont être achetés. Alors, pas par l'État et pas par les finances publiques, mais par la Caisse des dépôts et Action
et
Logement.
On vit de la mémoire.
Et donc, voilà, c'est...
Ce qui est bien.
Alors, ce qui est bien, peut-être, c'est une bouffée d'oxygène, certainement pour les promoteurs qui n'arrivent pas à les vendre. Qui d'ailleurs râlent parce qu'on ne leur rachète pas assez cher, hein, faut le dire quand même. Mais pourquoi est-ce que ces logements ne se vendaient pas ? Alors les taux d'intérêt ont monté, bien sûr, mais les prix, ça fait 20 ans qu'ils montent, 30 ans qu'ils montent, et sans aucune entrave. C'est-à-dire que finalement, ça a arrangé tout le monde, sauf éventuellement les primo-accédants, que les prix montent, parce que tout le monde y trouve son compte à un moment.
Mais quand vous dites d'entrave, vous voulez dire qu'en fait, il y a une surcotation des prix ?
Non, ça veut dire qu'il n'y a eu aucune politique publique pour limiter la hausse des prix et pour essayer de gérer un marché qui s'emballe depuis 30 ans.
Alors justement, si on parle de politique publique, Catherine Sabat, et qu'on veut endiguer les prix, est-ce que le politique a le pouvoir de le faire ? Objectivement.
Ah bah, il pourrait, hein. C'est-à-dire que nous, dans nos propositions au CNR qui n'ont pas été retenues, et c'est ce que vous évoquiez à l'instant, l'encadrement des prix du foncier, c'est une mesure qui n'existe pas, parce que c'est aujourd'hui une atteinte à la propriété privée, mais qui pourrait exister.
Mais il y avait une mesure qui consistait à inverser la fiscalité du foncier. Est-ce que cette petite mesure, qui n'était pas non plus énorme, aurait pu être une mesure favorable ? Vous savez, plus on détient du foncier dans le temps, et moins ça nous coûte cher. C'est vrai.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impôt sur la plus-value au bout de 30 ans.
Voilà.
C'est une mesure qui traîne dans les cartons des différents ministères depuis un certain temps. Thierry Repentin l'a
beaucoup écrit sur la question.
Ben oui. Il y a une petite mesure qui est passée et qui permet à des conseils municipaux de le faire. Ça se fait très peu, en fait, parce que tout simplement, ça mécontente énormément les propriétaires fonciers, qui sont parfois conseillers municipaux. Hein, donc, et en tout cas, c'est une mesure qui... effectivement, n'avait pas l'air révolutionnaire. Enfin, et bon, bah même ça, ça n'a pas été retenu. Donc, voilà, sur la souris, moi, je suis absolument d'accord que c'est une économie de 2 milliards pour l'État.
D'accord.
Après, il y a cette histoire de rachat de logements qui apporte, comme je disais, une bouffée d'oxygène, mais il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. C'est-à-dire qu'en 2008, ça s'est passé. En 2020, Covid, ça s'est passé. En 2023, l'écart se resserre. Donc, il ne faudrait pas que les promoteurs se disent « Ah ben, de toute façon, on peut produire, quel que soit le prix, etc. » parce que de toute façon... À un moment, un acteur public va nous racheter notre stock. Alors, je ne crois pas qu'il raisonne comme ça, mais les réactions, je trouve, oublient beaucoup cette mesure-là, qui n'est pas une mesure directement issue du CNR, mais qui est là.
Sur le fond, vous avez bossé pendant 7 mois, vous avez fait un nombre incalculable de réunions, vous avez en plus co-animé, pris sur votre temps libre, justement, et le résultat, il est quand même à la hauteur de la déception qui a pris
oui,
même de votre point de vue.
Je ne défends pas les résultats du CNR. Oui, je voulais juste souligner que tout le monde oublie à dessein. Voilà. Alors après, effectivement, sur les résultats du CNR, bah, nous, dans nos propositions, il n'y en a aucune qui a été retenue, c'est facile. Hein. Et puis dans les 19 propositions...
Aucune.
Aucune, non. Enfin, aucune en l'état. Non, c'est-à-dire nous on avait on avait 5 incontournables nous sur nos 19 propositions. On avait essayé de documenter le marché de la demande plutôt que toujours de partir du marché de l'offre, donc territorialement essayer de savoir quels étaient exactement les besoins en logement, où, comme, pour qui et à quel prix. Donc remonter ça et arrêter de dire il faut produire absolument 500 000 logements chaque année, mais regarder selon les territoires où est-ce qu'il en faut, ça paraît un peu évident. Ensuite on avait évidemment cette histoire d'encadrement du prix du foncier, c'est la matière première, hein, c'est un bien essentiel qui va se raréfier, donc prenons des mesures. Enfin, là, c'était extraordinaire parce qu'on avait dans notre groupe, le groupe de travail 2, qu'on peut résumer sous gouvernance et économie, hein, on avait des promoteurs, on avait des agents immobiliers, on avait des aménageurs, des bailleurs sociaux, des architectes, des élus, etc. Et je ne dis pas qu'il y avait un consensus parfait. Mais en tout cas, quand on disait qu'il faut encadrer les prix du foncier, personne ne montait au plafond en disant hors de question, mesures antilibérales, etc., etc. Donc, on se rend bien compte. Et même pour les promoteurs, c'est... Bien sûr que s'ils achètent un foncier moins cher, ils pourront vendre moins cher et donc vendre mieux. Donc voilà, ça faisait quand même un certain consensus. Ensuite, il y avait une question sur la manière de diffuser, de communiquer sur les documents d'urbanisme. Personne ne comprend rien. Hein. Un projet politique, un document d'urbanisme, c'est un projet politique. Enfin, vous devez en avoir chez vous. Personne n'y comprend rien. Et du coup, tout le monde s'oppose à tout. Si ce document d'urbanisme, le PLU ou le PLH, était co-construit avec toutes les parties prenantes, y compris les habitants, on pourrait dire, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui peut se passer dans votre commune.
C'est pas un peu le cas en ce moment, non. Avec les concertations, lorsque...
Non, pas sur les documents d'urbanisme, ça se fait sur les projets.
D'accord.
Mais il est déjà trop tard. Là, l'idée, c'est de dire...
En amont même de la concertation sur les projets, c'est réfléchir à la façon d'aménager le territoire.
Et de trouver un moyen de le montrer, peut-être par une maquette numérique ou quelque chose qui est accessible en ligne. On dit, voilà, dans votre ville, il peut se passer ça. Là, il y aura un immeuble, là, il y aura un parc, là, il y aura un équipement public.
Et ça réduirait la non-acceptation du public, des grues, des chantiers.
Voilà,
le sous-jacent, c'est d'accepter que l'on modifie la ville.
Voilà,
c'est
et accepter de qu'on modifie son cadre de vie et son cadre de
qu'on
vie.
Accepte l'autre,
qu'on accepte l'autre dans
son espace de vie.
Parce qu'il y a beaucoup de projets de logements qui sont contestés par des habitants, ce qui est quand même étrange. Ensuite, on avait réfléchi à une aide aux maires engagés, c'est-à-dire au-delà d'un certain nombre de logements produits, l'État... fait une dotation financière aux communes qui doit servir non pas forcément à fabriquer du logement, mais justement à accompagner le financement des équipements qui vont avec et qui sont indispensables quand on fait du logement nouveau. Je dis nouveau parce qu'il ne s'agit pas de faire du neuf, mais beaucoup aussi de transformer. Et puis enfin, on avait, sans conclure, mais posé sur la table la nécessité d'une réforme de toutes les niches fiscales et donc du statut du bailleur privé. Donc, sans dire s'il fallait faire fiscal, amortissement, etc. Mais en tout cas, en disant,
L'amortissement, ça coûte beaucoup moins cher à l'État.
Non, on a fait les calculs, ça ne coûte pas plus cher, ça ne coûte pas moins cher, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne l'ont pas fait.
Oui.
Et en plus, c'est très compliqué pour un bailleur tout à fait... artisanal, j'allais dire, enfin pour quelqu'un qui a juste un logement, etc. Faire de l'amortissement et faire tous les calculs, c'est pas si simple. Acheter du Pinel, c'est beaucoup plus simple.
Oui, c'est clair.
Bon, alors le Pinel a été supprimé, mais du coup, il n'y a rien pour le remplacer. Bien et sûr. Donc, il n'y a rien pour produire du marché locatif. Et pour revenir aux propositions du BRS, du CNR, pardon, il y avait le BRS qui devrait être élargi à un nombre de ménages beaucoup plus important. Pour l'instant, les OFS, c'est-à-dire les structures qui portent le BRS, ne sont pas forcément pour, parce qu'il y aurait après de la concurrence entre produits. Donc le BRS doit rester peu cher et doit rester réservé à des ménages qui
sous
ne peuvent pas...
Sous
conditions de ressources, qui ne peuvent pas accéder au marché
absolument.
Libre.
Et surtout en zone tendue.
Et en plus, la manière dont ça a été annoncé, c'est vraiment, pour l'instant, extrêmement flou en termes de calendrier et même en termes de mesures.
Ça l'a extrêmement clair. Marjolaine Millier-Millefer, merci d'être avec nous.
Merci.
Vous êtes députée de l'Isère et présidente de l'Alliance HQE.
Absolument.
Alors, vous êtes très présente, hein, et merci, puisque vous acceptez volontiers de venir vous exprimer. Je vous ai souvent vu à l'UNIS, à l'APNAIM, un peu partout, vous exprimer. Alors, à la femme politique que vous êtes, à la parlementaire que vous êtes, les résultats vous paraissent-ils décevants ?
Alors oui, moi ça me paraît d'abord important qu'on puisse être en discussion permanente. C'est pour ça que je vais en général là où on m'invite pour discuter de ces sujets, parce que je crois qu'on construit les stratégies qu'on veut mener ensemble. Je crois que c'est ça l'objectif. Et je crois que c'était l'objectif du CNR Logement. Donc moi, je suis beaucoup moins dure que les uns et les autres sur le CNR Logement. Je trouve qu'il a fait son travail. L'objectif du CNR Logement, c'était de mettre en coordination des acteurs qui pouvaient avoir des visions très différentes. Admettez que le pari de faire communion entre Nexity et la Fondation Abbé Pierre, c'était pas des écosystèmes,
si,
a priori.
Si le CNR avait une vertu, alors il n'en aurait eu qu'une, c'est de faire converger à l'unanimité l'ensemble des acteurs qui s'y sont rencontrés.
Hein. Eh ben, c'est quand même une vertu non négligeable, pardon, ouais, mais c'est encore une fois, c'était très morcelé, moi qui connais, comme vous le dites, assez bien ces sujets-là. L'écosystème du bâtiment, ce n'est pas l'écosystème du logement. L'écosystème du logement privé, ce n'est pas l'écosystème du logement social. Les acteurs qui sont plus tournés sur ce qu'on a appelé dans le CNR le pouvoir d'habiter, ce n'est pas les mêmes que ceux qui sont en charge de réconcilier les gens avec l'acte de construire. Et tout ça, la question dont la transition écologique est en train de percuter tous ces acteurs avec une sorte de vague de biais qui vient pousser tout ce monde-là comme dans un jeu de quilles, où on ne sait plus trop comment on a nos assises dans ces sujets, c'est non négligeable. Le fait d'avoir une énorme conférence des acteurs qui se parlent, qui échangent, et ça n'a pas été d'ailleurs fait qu'au sein du CNR, ça a été fait en parallèle sur la feuille de route décarbonation dans le secteur du bâtiment, ça a été fait sur différents sujets, parce qu'on parle aussi beaucoup d'énergie dans le bâtiment, évidemment. Donc, vous avez parlé de la manière dont le logement devient une charge très importante, mais elle devient une charge très importante, notamment au vu des charges énergétiques qui pèsent sur les ménages. C'est un des points qui devient très dur dans la question de l'habiter. C'est comment on prend les charges à la fois de la mobilité comment on prend en même temps les charges de l'énergie qu'on consomme au sein du bâtiment et que du coup on a de moins en moins de capacité à fournir dans un monde où on demande en plus qu'il faut transformer ses chaudières fuel et de décarbonation. Donc on se rend bien compte que tout cet écosystème prend en même temps et il faut qu'on se parle.
Alors justement,
pour converger vers des politiques communes. Ensuite, pour moi, dans le CNR, il y a plusieurs temporalités. Il y avait des temporalités de court terme et il y avait des temporalités de long terme. On l'a dit encore et encore dans le CNR. Dans le CNR, il y avait refondation.
Excusez-moi, Marjolaine, s'il y a des téléphones actifs, merci de les mettre en mode avion, puisqu'on a quelques interactions et on ne cesse de me faire signe en cabine. Voilà.
Et donc, je disais qu'en même temps, on a cessé de dire qu'il y aurait des temps différents dans les CNR. Ces temps différents sont celui de l'action immédiate, parce qu'il y a une crise du logement, mais il y a une filière qui est en crise. Par rapport à sa manière de travailler actuelle, percutée par les convergences de la mise en place du ZAN, de la transformation environnementale, du fait qu'elle-même, elle est percutée de plein fouet par les charges énergétiques et que le coût de la construction augmente, y compris avec l'augmentation du coût des matériaux.
Marjolaine Millier-Millefer, vous conviendrez que l'inflation normative, législative qui frappe cette industrie, elle a quand même quelque chose de singulier.
Alors, j'en suis absolument d'accord.
Il y a une espèce de convergence multifactorielle qui frappe. Pourquoi ce secteur ? Alors, je ne sais pas si d'autres secteurs ont été frappés.
Mais parce qu'on l'a dit, et je crois qu'on en convient, le secteur des bâtiments, en fait, c'est le croisement de tous les sujets. Demain, le secteur des bâtiments, ça absorbera toutes les questions de décarbonation du secteur de la mobilité. Parce que la mobilité en creux...
Catherine, c'est ce que vous disiez tout
absolument.
À l'heure. Le logement revêt des dimensions.
Mais bien sûr, parce que pendant un temps, on ne s'est pas posé... ou pas suffisamment posé la question de l'aménagement du territoire. La crise des gilets jaunes, c'était quand même bien la difficulté des gens, où on leur avait dit vous allez pouvoir construire votre logement pas cher à l'extérieur des villes, et puis tout d'un coup ils ont pris les charges énergétiques de la mobilité de plein fouet, et là tout d'un coup on s'est retrouvé avec mais comment on va faire pour payer avec les voitures. C'était un non-pensé d'aménagement du territoire quand même qui s'était posé à ce moment-là. Et donc dans les sujets qu'on essaye de traiter, vraiment dans les fondamentaux de refondation, si on veut refonder les politiques du logement, de l'aménagement, etc., il faut remettre les choses dans le bon ordre. Refaire de l'aménagement en priorité, commencer, comme l'a dit Catherine, par les besoins. C'est absolument essentiel de ne pas faire une politique en disant il faut tant par an, simplement, mais en disant où est-ce qu'il les faut, comment il les faut et comment est-ce qu'il faut les penser dans un monde où on sait que déjà, dès maintenant, on aura des territoires qui seront peu ou pas habitables dans les années qui viennent, liées au réchauffement climatique. Intégrer ces risques-là sur les territoires, c'est un truc auquel il faut penser aujourd'hui quand on aménage, parce qu'on ne construit pas pour 5 ans.
Ah, je suis bien d'accord
avec vous. On construit dans la durée. Donc c'est vraiment un écosystème qui, encore une fois, est complètement, et vous avez raison, pris par cette transformation extrêmement profonde, parce que toutes les transformations se font. Moi, je suis ce secteur depuis 2017, mais ça n'a cessé entre décarbonation, aménagement, etc.
Vous avez raison, mais moi je pense à la femme politique que vous êtes.
Absolument.
Un peu d'arbitrage, s'il vous plaît.
Mais qu'est-ce que vous abandonnez, la biodiversité ou le carbone ?
Oui, mais... oui.
Comment d'arbitre ?
Pourquoi opposer l'un et l'autre ?
Ben non, justement, on ne peut pas.
Catherine, on a un conflit démographique qui est absolument phénoménal. Je prends le nombre d'autorisations d'urbanisme qui n'a quasiment pas bougé depuis quasiment 30 ou 40 ans en volume. Et on a 17 millions d'habitants supplémentaires. La question, c'est comment on fait pour loger tout le monde ? Est-ce qu'il faut finalement se dire que le territoire va forcément se densifier, se verticaliser, et qu'à un moment donné, il faut se retrancher un peu de l'espace, et qu'on l'annonce clairement ? Mais quand on voit les acteurs du logement, la façon dont ils appréhendent leur réalité, leur modèle économique, on a réellement l'impression qu'ils deviennent un peu le parent ou le bouc émissaire des arbitrages budgétaires à Bercy ou autre, etc. C'est l'idée que se fait aujourd'hui l'industrie. Vous pouvez le comprendre, ça.
Oui, mais alors, effectivement, c'est compliqué. Il y a des normes, il y a des réglementations thermiques. Enfin,
il y a de la surnorme.
Sont venues, mais je ne sais pas si c'est de la surnorme. C'est des normes qui sont indispensables. Aujourd'hui, vous pouvez... On construit mieux qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, en tout cas en termes techniques, parce qu'on isole mieux thermiquement, parce qu'on isole mieux phoniquement, donc on entend moins ses voisins, on a peut-être moins chaud ou moins froid l'hiver. Enfin, c'est quand même un sujet extrêmement important. Donc, se dire que sans normes, ces logements ne se seraient pas améliorés, c'est à peu près certain. Donc, moi, j'entends bien la petite musique qui dit les normes, ça renchérit tout. Les premières réglementations thermiques qui dataient, les premières vraiment grandes réglementations thermiques, la RT 2005, 2008, 2012... Oui. Finalement, ça a été assez vite absorbé dans les prix et ça a permis aussi à l'industrie de se moderniser. Donc voilà, moi je demande aussi à cette industrie de regarder ce qu'elle fait. Ce sont des entrepreneurs, ce sont des entreprises qui ont des labs, des tas de directions de recherche et développement, etc. C'est un secteur qui ne se modernise pas. On construit comme...
C'est pas complètement...
Quand vous entendez... Olivier Salleron, qui dit que sur l'année 2023-2024, c'est 120 000 emplois qui vont être détruits.
J'écoute la CAPEB, c'est-à-dire la Confédération des artisans, qui dit nous, on va en créer 300 000 des emplois. Parce qu'en transformant, en développant des nouvelles filières de matériaux, de transformation, de reconstruction, de réhabilitation, tout ça, ça crée des nouveaux emplois.
C'est quoi le discours ? C'est le discours, finalement, de conservateur ou finalement d'un système un peu convenu d'un changement anthropologique de la société avec un marché qui s'ouvre de la rénovation énergétique qui pèse, je crois, j'ai vu 120 milliards d'euros sur les 10 prochaines années. C'est phénoménal.
Oui, mais c'est obligatoire.
D'accord, ok.
C'est obligatoire, okay. On ne va pas continuer
Sinon, vous le prenez comme une résistance au changement, toutes ces réactions un peu virulentes?
Un peu, ouais. Un peu.
Ah,
alors,
oui, un peu.
De la résistance au changement, en tout cas de la peur du changement.
Clairement.
C'est peut-être pas la même chose, résistance et peur. Hein. On peut comprendre.
Mais on peut comprendre qu'un artisan ou qu'une petite entreprise qui voit ses marges renier, qui voit une flambée des matières premières, qui voit une inflation avec une espèce de conjugaison d'événements multifactoriels qu'on avait rarement connus. Même moi, je ne les ai pas connus et pourtant.
Mais justement, on les a rarement connus. Voilà. On est dans une situation exceptionnelle.
Inédite,
etc. Dans le secteur du logement, tout se cumule. C'est-à-dire, il faut. Rénover, ne plus construire, les taux d'intérêt sont élevés, les prix sont élevés, les ménages n'ont plus les moyens, sont désolvabilisés, etc. On est dans une crise qui est multifactorielle. Donc on ne peut pas y répondre avec des réponses habituelles non plus. Et peut-être que oui, il faut. Enfin, on change vraiment. Et le Conseil national de la refondation, hein, il y a bien refondation, c'était bien ça l'idée.
Ce changement peut provoquer la mort de certaines entreprises. Nous avons comptabilisé les défaillances d'entreprises liées au secteur global de l'immobilier depuis le 1er janvier 2023. Vous voulez un chiffre ?
Il doit être important, je
282
pense.
282 faillites. Dépôt de bilan. Et pour la première fois, un promoteur, Angevin, on peut citer, c'est rendu public, je ne sais pas si on a entendu parler, c'est Carré Neuf, en Angers, qui a jeté l'éponge, là, carrément. On a des entreprises qui ont vu leur activité baisser depuis 40%, mais ça, vous le saviez déjà. Bien évidemment, impact sur les fonds de roulement, impact sur l'emploi, tout ça ne peut que provoquer une certaine forme de schizophrénie, de peur, on peut le dire, hein, une peur. Et des entreprises qui voient leur carnet de commandes, comme le dit Olivier Salleron, alors à l'inverse peut-être, de la CAPEB, fondre comme neige au soleil, il y a de quoi quand même s'alerter.
Ah mais moi je partage absolument, parce qu'en fait ce qui est vraiment problématique, c'est pas tant ce changement, c'est le rythme dans lequel il se met en œuvre.
Ah bah voilà.
Parce
tout
que ce qui est vrai,
absolument.
Mais ça c'est un vrai sujet, mais pour le coup sujet. On n'a pas vraiment le choix. En 5 ans, on est passé, on l'a dit, des réglementations thermiques aux réglementations environnementales, donc on est passé d'une logique de thermique à une logique de carbone.
On est tous d'accord avec Catherine.
Complètement
c'est
sur l'idée, sur la transition.
Il n'y a pas de débat.
C'est ça.
Il y a pas de débat.
Et moi ce que j'essaye de défendre régulièrement, c'est qu'il n'y a justement pas de débat. Dans le CNR, tout le monde était d'accord.
Ah,
ça,
voilà.
On le dit et on le répète. Tout le monde, toute la filière est engagée dans la volonté de faire. Par contre, ce qui est demandé...
Donc
et
vous
je
comprenez
crois...
le mécontentement, mais la c'est... colère...
Mais au-delà, du mécontentement et de la colère, moi je comprends que c'est dramatique qu'on perde des gens dans cet écosystème dans un moment où, au contraire, on a besoin de chacun des membres de cet écosystème.
Absolument.
Pour l'avenir et pour construire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un monde en transition. C'est vrai qu'il va y avoir une partie des métiers qui vont devoir se transformer. Mais moi, je suis dégoûtée de penser qu'on est en train de perdre des gens dont on aura besoin demain, après-demain, dans cet écosystème pour construire tout ce dont on est en train de parler. Parce que ça ne va pas marcher si du jour au lendemain, on bloque les écosystèmes dans ce qu'ils savaient faire. Par contre, ce qu'on a absolument besoin de faire, c'est de se dire qu'ensemble, il va falloir qu'on transforme les métiers, les activités, etc. etc. Ça ne se fait pas du jour au lendemain parce que sinon, ça claque. C'est clair.
Et ça se fait pas
et
beaucoup.
Ça ne se fait pas que sur le volet normatif. La norme, elle permet de donner de la vision sur ce qui vient. Malheureusement, souvent, les normes sont construites avec des regards trop court terme. Malheureusement, il faudrait qu'on puisse arriver à se dire bah, voilà ce qui va se mettre en œuvre dans quelques années. Après, pour la mise en œuvre des choses, il faut savoir qu'il y a certains sujets dont on parle depuis longtemps. Et tant qu'on n'est pas au pied du mur, on ne s'y met pas. Hein. Ça, c'est l'autre problème de l'écosystème.
Hein. Vive la France.
Oui, mais voilà, on est tous un peu dedans. Donc, on est comptable de ça. Moi, je parle par exemple de la lutte contre les passoires thermiques. Ça fait depuis 2015 qu'on dit éradique.
Ah, oui.
Et puis là, que ça devient obligatoire, on se dit ah, bah, mince, on n'a jamais réfléchi à comment il va falloir faire. Ça, c'est problématique. Mais ce n'est pas la comptabilité de l'écosystème qui doit s'en charger.
Ce que vous dites est un vrai sujet.
Partenariat public-privé qui est hyper important.
J'ai la chance de voir beaucoup d'élus locaux chaque semaine et d'aller dans les territoires. Il y a une chose qui me surprend, par exemple, c'est que... Alors, très bien, hein, on est locataire, il y a un système très protecteur des locataires, mais moi, j'ai vu des propriétaires occupants vivre dans des taudis, dans des passoires thermiques, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de rénover.
Oui.
Parce qu'on parle des aides avec MaPrimeRénov', l'extension avec MaPrimeRénov' Sérénité, l'extension au niveau de la copropriété. Et on peut dire que l'État a plutôt été bon sur la question du portail France à Rénovation.
Oui.
Parce que l'État ne peut pas financer sans prendre les travaux. Mais il y a beaucoup de propriétaires, 2 sur 3 sur les villes sur lesquelles je suis allé, qui n'ont pas les moyens tout simplement de financer le reste à charge de la rénovation énergétique. Moi, je dis, la question que je pose, c'est que dans une copropriété, vous avez des propriétaires occupants et vous avez des locataires. les locataires sont plutôt bien traités, dans une certaine mesure, et on fait une injonction au propriétaire bailleur de faire les travaux. Par contre, pour le propriétaire occupant, non.
Pas d'injonction, les propriétaires occupants.
On est d'accord.
Non, non, ils n'ont pas d'injonction.
Oui, ils n'ont pas d'injonction. Donc, qu'est-ce qu'ils deviennent s'ils n'ont pas les moyens?
Mais il faut
ils
que
ont froid l'hiver et chaud l'été. Quoi.
Non, non, mais je suis d'accord que c'est un vrai problème. Après, si on remonte... si on fait un petit compte à rebours, je suis d'accord avec Marjolaine, ça date pas d'hier tout ça, hein, donc se réveille un peu tard au moment où justement la crise explose. Et pour ce qui est des passoires thermiques, des taudis, etc., en fait, faut peut-être réinterroger l'appétence absolue de tout le monde de devenir propriétaire. Quoi. C'est-à-dire
et pourquoi
que, et pourquoi pas? Bah, parce qu'il faut en avoir les moyens. C'est-à-dire que ces propriétaires occupants qui se retrouvent dans des taudis, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément entretenu leur logement, mais pas par non-volonté de le faire, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire. Parce que quand on est propriétaire, ben on doit payer des charges.
Mais peut-être que la conscience qu'ils avaient quand ils ont eu accès n'était pas les mêmes enjeux qu'on avait. Ceux qui ont acheté des appartements,
notamment par la crise
construits
énergétique.
Dans les années 70-80, par exemple, ne s'attendaient pas forcément à voir décroître leur valeur de leur actif.
Mais aussi, je suis d'accord avec vous.
Il y a aussi la question, on a tous été élevés avec cette notion de constitution d'un patrimoine, de transmettre à ses enfants. Et puis il faut dire aussi que la France a créé le droit de propriété, liberté, égalité, propriété d'abord, avant que ça devienne fraternité. Donc c'est quand même quelque chose qui est endémique, qui est inhérent à la nature même des Français de vouloir devenir propriétaire.
Oui, c'est endémique, inhérent, encouragé extrêmement fortement par un tas de politiques publiques et un tas d'aides.
Je ne vais pas faire du sarkozisme, mais c'est vrai que la façon dont on nous parle des retraites, de la protection sociale et d'un avenir qui pour certains paraît parfois morose, vous conviendrez Catherine que c'est compréhensible qu'on veuille acquérir le bien qu'on occupe.
Je conviens absolument que ce soit compréhensible. Maintenant, quand vous vous retrouvez habiter un pavillon pour lequel vous vous êtes saigné pendant des années et qui ne vaut plus rien parce que vous êtes dans un territoire où il n'y a plus de demande, ou alors parce que mal construit, il a mal vieilli et vous n'avez pas eu les moyens de l'entretenir, et ben votre patrimoine, excusez-moi, mais vos enfants ne vont peut-être même pas en vouloir. Hein. Donc, dans ce cas-là, être locataire, c'est pas forcément.
C'est dramatique.
Non, mais je suis malédiction.
Oui, non, mais c'est intéressant ce que vous dites, mais c'est un vrai sujet. Marjolaine, justement, sur cette idée qu'il faut aujourd'hui soutenir une demande, parce que je prends quelques chiffres, hein, voilà, quelques chiffres. On a une demande qui s'est effondrée littéralement de plus de 40% dans certaines régions sur le logement neuf. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est inédit, c'est que les promoteurs voient un effondrement de la demande.
Mais c'est pas la demande qui s'effondre, c'est les prix qui sont trop élevés. Les gens, s'ils pouvaient accéder, ils accéderaient, évidemment. Juste, ils n'ont plus les moyens. Les taux sont élevés, les prix sont élevés. Alors, on parle, moi, j'adore, on parle de la crise de la demande. Ce n'est pas une crise de la demande.
Après,
c'est une crise de l'offre.
Vous avez raison. On va dire que c'est une crise de la solvabilité.
Voilà, si vous voulez.
Non, mais vous avez raison. Catherine, il y a très longtemps que vous êtes dans le métier. Vous étiez journaliste comme moi. Pendant très longtemps, aviez-vous vu une augmentation des points de base aussi rapide que qu'on a constaté dans les derniers 18 mois ?
Sur les taux ?
350 points de base d'augmentation. C'est phénoménal.
Oui, non, je ne crois pas. Ça s'est vu dans l'autre sens. Ça a beaucoup baissé et vite. Mais
Qu'est-ce qu'on fait pour loger les Français, Marjolaine Mini-Milfer ?
Mais alors, justement, moi, là-dessus, je suis vraiment d'accord avec Catherine. Il faut qu'on travaille sur la question, non pas... Parce qu'il y a une crise de l'écosystème qu'il faut travailler, encore une fois, parce qu'on a besoin de ces gens-là dans la durée. Donc, il faut qu'on stabilise et qu'on s'assure qu'on ne casse pas les entreprises parce qu'on a absolument besoin d'elles dans la durée. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on a vocation à loger les gens qui aujourd'hui n'accèdent pas au logement, ou est-ce qu'on a vocation à faire des multipropriétaires? Parce que cette question de la duplication de
mais
un, deux, trois logements...
Est-ce que l'un est forcément opposable à l'autre?
Non, mais ça peut poser la question de savoir ce qui est prioritaire. Est-ce que c'est prioritaire d'avoir un logement pour les gens qui n'en ont pas aujourd'hui? Et dans quelles conditions ils sont? Parce qu'il y a des gens aussi qui voudraient changer de logement parce que typiquement leur logement s'est beaucoup dégradé et qu'ils disent du coup qu'ils vont faire un peu ce qu'on a fait pendant le passé, c'est-à-dire qu'on va laisser derrière soi une friche, parce qu'on l'a fait sur d'autres choses dans le bâtiment, hein. On laisse derrière une friche qu'on n'occupe plus, puis on va aller construire un nouveau logement neuf et pas que d'ailleurs du logement, une nouvelle industrie, un nouveau machin, etc., en laissant la boîte vide derrière soi. Ça, je pense que c'est plus l'objectif qu'on veut traiter. Donc il faut absolument qu'on se pose la question de pourquoi les gens ont un besoin de logement, effectivement, de mieux analyser quelle est cette demande pour y répondre de manière plus fine, tout en ayant effectivement un accompagnement extrêmement fort de la filière, en lui donnant de la visibilité et le temps de s'adapter à la transformation. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle résiste à cette transformation, il va falloir qu'elle l'absorbe,
Marjolaine,
mais il faut qu'on lui donne de la visibilité
Marjolaine,
pour le faire.
On va être très concret. Actuellement, on a calculé que la moyenne maximale du reste à charge avec les aides, 32% du montant total des travaux, en moyenne, plafonné. Y compris les C2E.
De quel type de public on parle ?
Alors, on parle d'un public de propriétaires occupants ou de propriétaires bailleurs, avec un panier moyen de 27 000 euros par logement.
Donc vous avez lissé les capacités financières de tous les ménages.
On a pris en volume 10 000 unités, 10 000 appartements. On a évalué le coût moyen des travaux par unité, 27 000 euros par appartement. Je vous fais grâce de
et
la...
C'est quoi, ça vient d'où ces chiffres ?
On a fait un travail avec l'UNIS et l'AFNIM sur la question. Et j'ai interrogé deux gros administrateurs de biens qui ont respectivement chacun 180 000 lots en gestion et 120 000 lots en gestion. On se rend compte, en fait, que la difficulté, c'est pas tant le fait de financer le reste à charge, c'est qu'il n'y a pas de financier qui accepte de le financer. Les banques refusent, deux fois sur trois, de financer les dossiers de
Alors ça, c'est extrêmement intéressant, parce que si vous interrogez ce qu'on a fait à l'Assemblée nationale dans la mission d'information que je mène par ailleurs sur la rénovation énergétique...
Alors c'est pour ça que je vous pose cette question,
justement. Absolument. Eh bien, eux, ils vont vous dire, mais nous, on n'a pas de demande des gens qui ont les moyens de faire, et si on n'a pas de demande de prêt, c'est que les gens n'ont pas envie de rénover. Donc eux, ils ne voient pas de problématique. Sur le côté du financement...
Oh non.
Mais c'est assez intéressant, parce qu'en fait, moi, je pense qu'on ne parle pas des mêmes publics.
Ah non.
Il y a différentes typologies de publics. Il y a les gens qui ont les moyens aujourd'hui de rénover et les moyens de faire des prêts, qui, eux, le font ou le font pas, ça dépend s'ils ont la contrainte qui leur pèse dessus ou pas, parce qu'une partie préfère ne pas faire.
Voter des travaux et sont dans l'incapacité, par exemple, de se faire financer.
Oui, mais il y a des gens aussi qui se disent que moi, cette copropriété, je vais pas y passer ma vie. Un jour, j'aurai peut-être ma maison, mon pavillon. J'ai pas forcément envie d'investir là pour rénover ce bien maintenant. Ça me dérange pas de payer des charges énergétiques un peu élevées. De toute façon, j'ai les moyens de le faire.
Si j'ai 75 ans et que je vis dans une copropriété, je peux me poser la même question.
Non, mais enfin, je veux dire, mais il y a des gens qui se posent cette question à 75 ans et qui ont les moyens et qui se disent c'est pas forcément ma priorité d'investissement, ça existe. Et vous avez des gens qui sont absolument aujourd'hui pendus à leur charge énergétique, qui auraient absolument besoin d'avoir des rénovations qui soient faites, qui eux n'arrivent pas à boucler leur dossier de financement parce qu'on n'arrive pas à prêter aux gens qui n'ont pas les moyens.
Absolument.
Et donc du coup, eh ben oui, et c'est les plus pauvres, on leur fait pas confiance pour pouvoir rembourser. Et donc du coup, concrètement, on a du mal.
Il y a pas de financement structuré pour ça.
Et c'est absolument vrai. Et donc du coup, une des propositions du CNR qu'on pousse régulièrement, c'est avoir une forme de banque de la rénovation énergétique qui fasse vraiment le job de financer, quelle que soit la situation du ménage, qui pourrait, comme vous le dites, s'asseoir pourquoi pas sur l'hypothèque, qui pourrait. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est poussé très fortement.
Il y avait plein d'excellentes idées.
Mais oui, il y en a plein. Et le fait que la banque de la rénovation n'était pas dans les annonces de la réunion du CNR ne veut pas dire que toutes les idées du CNR ne sont pas en train de prospérer, d'avancer. Ce que je veux dire, c'est qu'ils l'ont dit et répété, le CNR, c'était pas la fin du discours.
Marjolaine, vous êtes passionnante, littéralement, toutes les deux, vous êtes passionnante. On pourrait faire des heures là-dessus, mais on a un temps qui file et on avait d'autres questions aussi à suivre. Fabrice.
Des questions, ou du moins essayer de restituer. Alors, l'après-CNR et toutes les questions que vous avez posées, en tout cas, ce qu'on peut dire en conclusion, ou en résumé, c'est que le désir des Français d'achat, en tout cas, il ne se dément pas. On est plus aujourd'hui justement sur une question de la solvabilité. Des pistes ont été évoquées. Catherine, vous défendiez l'encadrement du foncier. C'est vrai que ça n'a pas été retenu, mais ça pourrait revenir, pourquoi pas, sur le devant de la scène.
Si on a fait l'encadrement des loyers, on peut faire l'encadrement du foncier.
Mais figurez-vous que je pense que c'est parce qu'il y a eu l'encadrement des loyers qui a été combattu, critiqué, qui n'est pas du tout généralisé, etc. Je pense que cette idée d'encadrer le foncier est passée beaucoup plus facilement. Pas passée, en tout cas, entre les acteurs qui étaient autour de notre table de groupe de travail.
C'est très clair. Il faudra voir si la loi du marché... Là, on est en train de voir les prix quand même baisser, hein, parce qu'à un moment, quand plus personne ne peut acheter, là, il y aura forcément des baisses. À voir. On n'est pas forcément fan de l'encadrement. Ça ne produit pas forcément des bons effets. Mais après, c'est des positions très partagées. En tout cas... Voilà, attention également, vous nous avez dit Marjolaine, à préserver cet écosystème. Un écosystème, si on peut retenir une bonne nouvelle de ce CNR logement, c'est que les gens se sont parlé. Voilà, public,
absolument.
Privé.
Un décloisonnement, absolument.
Sylvain, on peut le souligner parce que nous, on est à Radio Immo, on a ce prisme, on travaille avec tous les acteurs et on est toujours frappé par le fait que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en silo, qui ne se parlent pas, et au moins ça aurait servi à quelque chose, on en a besoin. Donc on est à l'aube sûrement d'un grand bouleversement écologique, économique, les transitions, on a parlé des températures extrêmes à 50 degrés ou plus dans les villes, donc on va devoir habiter autrement. Voilà, pourquoi pas effectivement sur ces sujets une banque de la rénovation énergétique. En tout cas, les solutions, les propositions sont là, et on continuera à les développer sur ce plateau.
Si je vous dis TW, ça vous fait penser à quoi ?
Alors, moi, tout de suite, je pense énergie, je pense terawatt. Ouais, j'ai ça, peut-être une déformation particulière.
TW, c'est un rapport scientifique qui a été fait, c'est le rapport entre l'humidité et la chaleur émise. Et en 2019 et en 2020, dans deux endroits de la planète, pendant plus de trois heures, la Terre était impropre à la vie humaine. Vous vous rappelez ?
Oui.
Au Pakistan, au sud du Pakistan et en Arabie Saoudite.
Au Canada, c'était pas mal aussi.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il faut imaginer. Alors c'est vrai que c'est difficile à. C'était dans une revue qui s'appelle Scientist et j'avais récupéré l'article. Ça a été un choc parce que de penser que sur Terre, il y a des lieux dans lesquels l'homme n'aurait pas pu survivre au bout de quelques heures, liés au climat. C'est flippant quand on y réfléchit. Et pourtant, l'évolution même de notre planète marque le pas avec des désastres climatiques qui ont provoqué parfois l'extinction de l'espèce.
Et vous n'allez pas être content, mais ça va se traduire par des augmentations normatives et réglementaires. Mais absolument. Et parce qu'aujourd'hui, il faut se rappeler, on est passé du thermique au carbone, et là aujourd'hui, du carbone, on est en train de passer au sujet d'économie circulaire, de biodiversité, d'intégration des politiques d'eau dans le bâtiment aussi. Et donc du coup, on va continuer d'avoir des charges qui vont se poser.
Et 2050, parce que avec 11 milliards d'êtres humains sur la planète, c'est juste pas tolérable.
Mais ça plaide quand même énormément pour des décisions comme celles qui ont été prises par des maires du sud de la France qui ont refusé des permis de construire parce qu'il n'y avait pas assez d'eau.
C'est courageux, mais
c'est surtout réaliste. Quoi.
Oui, c'est du bon sens.
Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, restriction des ressources en eau, restriction des ressources en sol. Eh bien, peut-être qu'il va vraiment falloir envisager la construction ou le développement de logements nouveaux.
Pas assez d'eau ou à contrario, des problématiques de ruissellement qui vont faire que vous avez des inondations régulières.
Il est l'heure de nous quitter et ça ferait, j'allais dire, on répond pas, bien évidemment, vous avez compris les amis, à toutes les questions que nous posons. J'allais dire que la vitalité d'une bonne démocratie, c'est d'échanger et pas forcément d'être d'accord. Ça nous fait du bien parfois de pas être d'accord. On est plutôt bien là-dessus. Je voudrais qu'on fasse quand même un mot de conclusion, si vous voulez bien, pour finir sur une note positive et résolument constructive, sans perdre de jeu de mots. On va commencer par vous, Catherine.
Oui, alors moi, je pense que, et je suis très contente de ça, c'est que le CNR, ça a permis que le logement fasse la une des journaux. Le journal grand public.
C'est vrai.
Le logement est sorti des pages patrimoine, des pages culture quand on parle d'architecture, des pages banlieue quand on parle des banlieues qui vont mal ou qui brûlent, etc. Et là, et aussi des pages ça monte ou ça descend qui était quand même le grand marronnier des journaux. Ouais. Et là, on a parlé du logement, des Français, de la forme urbaine, de l'aménagement du territoire, enfin. En tout cas, ces sujets ont été remis à l'ordre du jour, remis dans le débat public. Alors, Idéal se bat pour ça. Donc, moi, si j'ai pu participer à ce résultat-là en étant copilote d'un groupe du CNR, je suis contente.
Vous savez, c'est Balzac qui disait qu'il y a deux sortes d'hommes. Il y a les crédules et les incrédules. Les crédules ne voient le monde que ce qui est. Et les crédules voit dans le monde tel qu'il pourrait être. Et finalement, ça serait peut-être un monde idéal. Ça serait plutôt pas mal. Marjolaine.
Alors moi, mon mot de conclusion, c'est que je pense que c'était un succès, ce CNR, de mettre tout le monde d'accord. Mais moi, je le dis, et franchement, j'irai le défendre encore régulièrement. C'est un succès, parce que mettre tout le monde d'accord dans un écosystème qui est quand même, on l'a dit, extrêmement morcelé, mais même vous le soulignez.
Mettre tout le monde d'accord contre, hein, quand même.
Oui, mais mettre tout le monde d'accord sur le fait qu'on veut faire plus. Mettre tout le monde d'accord sur le fait que l'ambition, on n'y est pas encore. Ouais. Mettre d'accord sur le fait qu'on a une énergie absolue dans ce secteur qui doit être entendue. Ouais. Et Christophe Béchu avait une formule que j'ai trouvée extrêmement intéressante dans la présentation de la feuille de route décarbonation concerne aussi ce secteur. C'était, il disait, j'espère qu'on va faire tellement de bruit dans le MTES que finalement, ce sera entendu jusqu'à Bercy. Et qu'effectivement, mais oui, on a des temporalités différentes. différente. C'est qu'aujourd'hui, on a un consensus sur les besoins, sur les bilans. Et bien du coup, derrière, on va pouvoir avoir un débat construit et coordonné sur les moyens qu'on va mettre en place, sur cette planification écologique qui doit se mettre en œuvre. Parce que moi, ce que je constate en ce moment, c'est une convergence avec les autres politiques publiques qui sont en train de se mener. On est en train de parler du zéro artificialisation net. Eh bien, on va l'intégrer plutôt que de se battre contre. Les feuilles de route décarbonation, qui sont absolument un sujet pour ce secteur, on est en train de voir comment elles s'articulent avec le CNR Logement. La feuille de route industrie verte, la question de l'industrie qu'on doit réimplanter dans nos territoires, bah c'est du ZAN, c'est aussi les filières dont on a besoin pour reconstruire et reconstruire plus durablement. La réforme du lycée professionnel qui va devoir s'attacher à aider à tous ces écosystèmes, à se doter de ses compétences et de nouvelles attractivités pour ces métiers. On n'arrête pas de dire, il ne faut pas faire grève le vendredi, il faut aller dans les métiers du bâtiment. Mais ça, c'est extrêmement important aussi. Et la réforme du lycée professionnel, c'est une chance là-dedans. Les compétences, c'est central. Donc, enfin, moi, je vois des sujets qui sont en convergence les uns avec les autres et beaucoup d'énergie solidaire.
Je vois là la passion de la parlementaire que vous êtes, bien évidemment. Mais vous pouvez comprendre aussi que quand vous entendez Christophe Béchu, parce que je l'ai écouté aussi, il y a quand même une sorte d'ironie du sort qu'un ministre de la République dise on va faire tellement de bruit que Bercy va l'entendre. Alors qu'il est lui-même dans l'exécutif. Que diable allait-il faire dans cette galère ? On peut se poser décemment la question, comme on peut se poser décemment la question de l'acceptation du Marocain.
Est-ce qu'on est d'accord avec le fait
d'Olivier Klein ? Parce que s'il y en a un qui est dans une position un peu délicate en ce moment, c'est quand même le ministre du Logement, dont on se demande réellement, encore une fois, que diable allait-il faire dans cette galère ? On l'a tous connu du temps de Clichy, à l'époque de Clichy-sous-Bois, un maire plutôt très actif et plutôt respecté. Et là, on voit finalement un ministre du logement...
Mais que je trouve excellent sur les politiques du parcours de... Non, parcours de l'habitant, ça c'est un sujet qu'il a saisi pleinement, dans lequel il a vraiment travaillé. Sur les politiques sociales, on est en train de décoincer les situations avec
le
monde...
Sur le parcours de l'habitant, avec zéro résultat.
Avec le monde du logement social, il y a des réconciliations qui sont en train de se faire, qui étaient longuement dues. Et à côté de ça, c'est bien normal, il y a des temporalités pour tout. Le PLF, il se votera à l'Assemblée et il se votera en octobre. Ça paraît difficile de préempter ce débat-là. Mais par contre, on arrivera avec un écosystème coordonné sur ce sujet.
Quand même, les propositions, elles ont été faites par la Première ministre devant justement tout cet écosystème à la suite d'un travail dont il a été à peu près rien retenu.
Merci.
Et donc, a priori, s'il y a une cohérence dans ce gouvernement, ça devrait se retrouver dans le PLF, malheureusement.
Merci Catherine. Merci, parce que c'est tout à fait juste. On apprécie énormément Olivier Klein, c'est un type absolument sympathique. C'est un ministre de logement absent, et certainement l'un des plus mauvais qu'on ait connu dans la Ve République, mais il y en a d'autres hein, quand même. Voilà, il faut le dire.
Moi, je maintiens des temporalités différentes.
Il faut le dire.
A fait un écosystème qui se comprend sur ce qu'ils veulent faire ensemble et maintenant qui est en train de s'accorder sur les budgets nécessaires.
Il y a 2,5 millions de personnes sur des listes pour le logement, disons, entre guillemets, social. Il y a, je crois, plusieurs millions, je crois qu'il y a des chiffres qui étaient ahurissants de personnes mal logées en état de précarité. Les phénomènes de décohabitation frappent très lourdement les situations, notamment pour les femmes qui se retrouvent isolées avec des enfants en bas, etc. C'est un drame absolu. Moi qui voyage, je peux vous dire, toutes les semaines, voyant des élus locaux qui sont au bord de la rupture, désespérés parce qu'ils n'ont aucune marge de manœuvre. Et je vais vous dire une autre chose qui est une hérésie absolue, c'est la compensation à l'euro près des dotations. C'est faux. On l'a dit tout à l'heure avec Jean-Philippe Dugoin-Clément. On a analysé certaines localités, certaines municipalités. On a des fonds, des dotations qui ont baissé de plus de 30% avec des transferts de compétences auxquelles on n'associe aucune recette. Il faut comprendre la colère.
Avec péréquation ou pas ?
Alors,
parce que est-ce que vous envisagez les charges, parce qu'il y a eu un effet de péréquation aussi qui ont été faits au niveau des différentes collectivités.
Hein.
Certaines ont contribué aussi à ce que d'autres aient plus de moyens.
Mais pour qu'il y ait péréquation, comme les fonds d'ailleurs pour la formation, etc., encore faut-il qu'il y ait une masse suffisante pour alimenter les plus faibles, y compris dans le logement social, dont on a présumé que certains bailleurs sociaux étaient richissimes et d'autres ne l'étaient pas et qu'il fallait ponctionner.
C'est tout le débat. On n'a pas beaucoup parlé du logement social d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, absolument. C'est tout le débat. D'ailleurs, on a prévu d'ailleurs une séquence spécifique là-dessus, puisque il n'a échappé à personne que depuis qu'ALS est devenue maintenant une institution publique, hein, me semble-t-il, Alcan Logement Service, est-ce que ça préfigure aussi peut-être d'une idée de démantèlement peut-être de cette formidable machine.
Il y a une convention quinquennale qui vient d'être signée, donc.
Voilà. Donc on va dire qu'on est, on a sauvé les meubles.
priori, ça ne va pas être pour tout de suite.
Oui, on est un peu sauvé. Il était temps, un peu de bon sens dans une certaine mesure. Donc on peut comprendre que politiquement, on est des gens mécontents. Bah, on peut leur dire finalement rendez-vous dans les urnes, puisque c'est les urnes qui parleront avec un exécutif sourd. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, et je vais terminer là-dessus, ce que j'ai du mal à comprendre lorsque je voyage, et avec Fabrice on le voit souvent, c'est une espèce de surdité sur cette question cruciale du logement. On a vraiment l'impression, quand vous l'avez lu l'article dans Challenge avec l'interview d'Emmanuel Macron, vous entendez un président de la République qui vous dit que structurellement, les politiques publiques et les aides au logement n'ont produit que de l'inefficacité structurelle.
Mais c'est un sujet qui a été très très mal traité dans ce quinquennat, hein, qui a commencé par la baisse des APL et par la réduction de loyer de solidarité, c'est-à-dire une coupe des budgets des bailleurs sociaux. Hein,
mais Catherine, ce n'est pas une infamie de le dire, on est d'accord?
Ah mais non, mais c'est une réalité surtout. Donc c'est le logement social, il a quand même assez pâti de ce qui a été décidé au début de ce quinquennat et ce qui n'a pas été remis en cause depuis. Là, il réclamait que la RLS, donc la réduction de loyer de solidarité, soit revue et a priori ça ne va pas être le cas. Donc effectivement, 2,4 millions de demandeurs de logement social, dont une partie qui sont déjà logés. Hein,
attendez.
Et qui sont absolument soit en suroccupation, soit en sous-occupation d'ailleurs. Mais effectivement, le logement social, c'est quand même un modèle extrêmement fort dans notre pays, qui fonctionne bien, qui est extrêmement efficace dans la manière dont il loge les gens.
Tout à l'heure, vous parliez de l'accession à la propriété. On peut aussi imaginer que les primo-accédants permettent de quitter le logement social dans lequel ils sont pour permettre une rotation et puis d'avoir un parcours résidentiel plus maîtrisé. Vous êtes d'accord, Marjolaine? Non, c'est bien qu'on ait une politique. Ce que je dis là, alors c'est très critique. Bon, évidemment, je fais un peu mon journaliste là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est
je partage une grande partie de ce qui est dit.
Mais c'est important que politiquement, on ne soit pas uniquement sur de la réserve et de la consensualité. Parce que c'est une chose que j'ai remarqué, face à un exécutif, on a toujours une industrie qui plie. Elle plie parce qu'elle cherche toujours le consensus. Vous aviez toujours le consensus. Moi, je me suis même posé la question de savoir pourquoi certains industriels ou partenaires sont allés au CNR, dont on savait précisément qu'elle n'aboutirait à rien. Vous avez vu le rapport qu'il y a eu sur le logement dans les 15 dernières années, le nombre de commissions? C'est pléthorique. Hein. Il aurait suffi simplement d'appliquer les règles, les 13 mesures proposées par François Rebsamen. Ça aurait été déjà plutôt pas mal.
Non, mais on était tous dans ce cas-là. On s'est dit, on y va pas. Et bien sûr qu'on y va. Parce qu'on va pas se dire, il va rien se passer, donc on va même pas essayer. Donc on essaye tous. Et tout le monde y est allé avec enthousiasme. Et tout le monde a fait des propositions. Alors gageons que ces propositions, elles vont rester sur la table. Le gouvernement ne les a pas retenues. Il y aura peut-être d'autres personnes au gouvernement.
Désolée, je vais devoir rendre l'antenne.
Mais ça ne veut pas dire, moi je dois le souligner quand même, les parlementaires sont extrêmement mobilisés sur le sujet. La fin du débat sur le CNR, il n'est pas là. Hein. Aujourd'hui, il y a une motivation très grande dans le secteur de continuer à avancer, mais elle est la même chez les parlementaires. Et à la fin des fins, c'est eux qui votent le budget.
Et heureusement qu'on a des parlementaires d'ailleurs, puisqu'on a encore un peu de démocratie dans ce pays, c'est déjà pas mal. Mais c'était une petite boutade que je voulais faire. Merci Marjolaine Millier-Millefer. Je rappelle que vous êtes députée de l'Isère et présidente de l'Alliance HQE, très impliquée dans ces questions. J'étais ravi de vous avoir sur le plateau. C'est toujours un plaisir de vous avoir, Catherine, sur le plateau. Déléguée générale d'Idéal, avec toujours cette idée de faire en sorte que le logement soit l'élément central, l'élément aussi à la fois holistique d'un projet de vie, le marqueur social, car tout se définit à partir de là. Et je peux vous dire que je sais bien de quoi je parle. Je voudrais aussi citer notre ami Jean-Philippe Dugouin-Clément, président de l'établissement public conseil d'Île-de-France, de Grand Paris Aménagement, maire de Mennecy, vice-président de la région. Bref, il a vraiment beaucoup, beaucoup d'activités, Jean-Philippe Dugouin-Clément. Publie un livre, L'habitat qui fait le citoyen, c'est dans les bacs à partir du 23 juin. Il nous a fait le plaisir de l'avant-première avec une préface, et je vous encourage à la lire, de Jean-Louis Borloo. Merci Fabrice.
Merci à vous, merci à tous ceux qui nous ont écoutés pour cette émission grand format, Le sens de l'immobilier, et à très bientôt pour une prochaine émission.
Le sens de l'immobilier, là, c'était la 7e édition, on se retrouve bientôt pour la 8e d'ailleurs avec nos amis de Procivis. D'ici là, prenez soin de vous.
Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis, à retrouver sur les sites de Radio Immo et Radio Territoria.